Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs, je prolonge certaines interviews sur l'aménagement et sur les aménageurs et je reçois aujourd'hui Willem Poel qui est directeur de la SEM Paris-Sud Aménagement. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Alors vous êtes implanté à Massy, mais je suppose que vous faites des opérations en dehors de ce territoire particulier. Je veux bien qu'on commence à discuter un petit peu de ce rôle de l'aménageur. Aujourd'hui, on a des aménageurs qui font de la promotion, des promoteurs qui font de l'aménagement. On a quand même l'impression dans ce métier d'une révolution, d'une mise en place, d'une certaine revalorisation des territoires, d'une certaine dynamisation de l'acte d'aménager, puisque les élus qui sont quand même au centre, beaucoup, souvent au centre de cette problématique, se sont emparés du sujet, alors que pendant longtemps, c'était un sujet mis de côté. Qu'en pensez-vous ?
Je ne dirais pas l'aménageur est mort, vive l'aménageur, mais ce qui est évident, c'est que le métier de l'aménagement a tendance à évoluer nécessairement pour s'adapter à des besoins aujourd'hui qui sont complètement différents. Les questions que se posent les territoires n'ont pas pour unique réponse l'aménagement au sens propre du terme, et donc des structures comme les nôtres ont capacité à vivre demain qu'à partir du moment où elles se renouvellent, où elles évoluent, en se tirant vers de nouveaux métiers, des métiers complémentaires aux métiers de base de l'aménagement. Et ces métiers complémentaires, c'est des sujets, comme vous l'avez évoqué, de la promotion, des études stratégiques, de la construction, des foncières aussi, puisque nous, on a créé deux foncières. Une foncière terrain pour capter des terrains le plus en amont possible et bénéficier également de cette valeur foncière sur des territoires sur lesquels on se sent à l'aise, tout simplement, en essayant d'initier des projets à plus long terme.
Ça veut dire sur 5 ans, 10 ans, au-delà des mandats et dans une réflexion importante.
Sur cette foncière dite terrain, on a à la fois des terrains qui sont fluides immédiatement, de manière à pouvoir porter des terrains qui nécessitent un portage un petit peu plus long.
Ah,
c'est un exercice assez classique. Et on a également créé une autre foncière, une foncière qu'on qualifie de pied d'immeuble, qui s'appelle Redville. Son nom commercial, c'est Redville.
Joli nom.
Qui a à la fois pour vocation de se rendre propriétaire de pied d'immeuble à vocation commerciale, pour essayer de trouver sur les territoires sur lesquels on intervient une sorte de cohérence commerciale, assurer des loyers faibles pour certains
commerces. Et assurer la pérennité.
Puis surtout une cohérence commerciale, ne pas aller vers une monofonctionnalité des commerces. La deuxième thématique, c'est les maisons de santé. C'est-à-dire que le premier investissement qu'on en a fait, c'est une maison de santé que l'on a implantée à Massy. Aujourd'hui, on imagine créer un réseau de maisons de santé.
Je suppose que vous travaillez avec des professionnels qui ont l'habitude ou vous, ex nihilo, vous inventez ce nouveau métier ?
On n'invente pas ce nouveau métier. On est un outil et on se fait systématiquement accompagner de sachants sur les maisons de santé. L'UPRS nous accompagne dans le choix et des gestionnaires. Notre métier est un métier de coordinateur, donc on a obligatoirement des limites et il faut aller chercher les compétences où elles le sont.
Alors justement, quand vous faites de la promotion, comment faites-vous pour ne pas être jugé parti ? C'est souvent la question qui est posée aux aménageurs quand même.
Bien sûr, je fais de la promotion, mais je me refuse à peu de choses près de le faire sur mes opérations d'aménagement pour ne pas être jugé parti. J'ai un mauvais exemple, c'est sur Vilgenis où on lance une opération en copromotion, mais tout simplement parce qu'on avait le sentiment de vouloir porter un sujet jusqu'au bout, et ce sujet, c'est le sujet de la filière sèche. Il nous semblait intéressant, cultivant pour nous aussi, de rentrer
à titre d'exemple,
d'aller jusqu'au bout de la démarche, et pour ce faire, s'y investir nous-mêmes. Mais habituellement, on évite de faire effectivement de la promotion sur nos opérations d'aménagement pour ne pas être jugé parti. On sait pertinemment effectivement qu'un promoteur va avoir des obstacles à franchir,
voilà, des
écueils,
vérités sur le prix du foncier.
Ou même sur la construction, à un moment donné, il y a des équilibres aussi économiques tout à fait compréhensibles. Quand je suis aménageur, j'arrive à lui potentiellement à rentrer dans un débat et peut-être
tirer vers le haut un peu.
La qualité. Ce que je voudrais pas, c'est me tordre un bras si j'étais effectivement copromoteur sur une de mes opérations d'aménagement. Donc c'est pas une notion de perdre son âme en étant copromoteur sur son opération d'aménagement, mais être jugé parti me semble pas bien. Par contre, on réalise des opérations de copromotion en dehors de nos opérations d'aménagement. On ne les porte qu'à partir du moment où il y a un lien avec notre raison d'être. On porte l'intérêt général. Donc faut que l'opération...
Quel type d'opération, par exemple ? Donnez-moi un exemple avec de la mixité, avec logement, activité.
Ça pourrait être le cas. Je vous donne un simple cas qui est celui de Morangis, où on réalise 60 logements qui sont à la fois de l'accession, du social. On a un sujet d'agriculture urbaine complémentaire. L'objectif, c'est de loger les exploitants agricoles dans les logements dits sociaux, trouver des synergies entre...
Oui, d'autant plus que c'est une vraie problématique d'avoir le logement près de son lieu de travail, surtout lorsqu'on est happé par, dans l'agriculture, par les saisons, avec effectivement les problématiques des saisonniers qu'on rencontre très fréquemment. Alors,
effectivement, il y a des métiers qui sont plus propices que d'autres à nécessiter une proximité entre logement et vie, même si on pourrait l'espérer pour beaucoup de monde. Néanmoins, le sujet, en plus de cette thématique sociale, c'est également être une préfiguration d'un traitement urbain aux franges de la ville, aux franges du périurbain et de la ville, la mixité entre cette ville, cette campagne...
Pour éviter l'étalement.
Pour éviter l'étalement et puis offrir une qualité de vie, même aux gens qui vivent en périurbain, qui ne sont pas des gens déclassés, hein.
Et alors, comment fait-on justement le périurbain pour essayer de, justement, en tant qu'aménageur, de résoudre à la fois le problème du logement, de l'activité, du travail et de cette fonctionnalité avec le commerce, bien évidemment, mais aussi de la mobilité, puisque, évidemment, un des problèmes du périurbain, c'est la mobilité. Vous savez vous inscrire dans cette thématique ?
L'aménageur ne résout pas tous les problèmes.
Oui, désolé, mais c'était pas une question piège, mais quand même, c'est important.
Non, elle n'est pas du tout piège. Je vous entends. Je pense que l'objectif premier d'un aménageur qui s'investit sur du périurbain, en dehors de son sujet de tout simplement de conscience, c'est d'essayer de renforcer l'existant. Donc l'étalement est un véritable sujet. Il y a une sorte de force un peu surnaturelle qui nous pousse à cet étalement. Je pense que le rôle de l'aménageur, c'est à la fois d'essayer de reconquérir les centres-bourgs avec des outils qui ne sont justement pas l'outil de l'aménagement classique tel qu'on a pu le répandre pendant des années, voire des décennies. C'est des sujets qui sont relatifs à traitement d'espace public, à des foncières qui peuvent redynamiser le commerce ou participer à cette redynamisation. C'est également des opérations immobilières en centre-bourg.
Ça veut dire que densifier en périurbain, le rôle de l'aménageur pour essayer d'éviter justement l'étalement et d'éviter la problématique voiture, mobilité, etc., c'est d'inciter à la densification pour essayer d'avoir des regroupements de population qui font qu'on n'a pas ou on a moins cette problématique.
La densification n'est pas un gros mot, ça c'est clair. Je pense que on luttera également contre l'étalement en procurant une qualité de vie dans ces centres-bourgs, dans ces villes moyennes.
Alors justement, comment fait-on ? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Parisiens ou de Franciliens qui ont décidé d'aller un peu plus loin, le fameux 100 km de Paris. Et donc, ces villes dont vous parlez, Morangis et d'autres villes sur lesquelles vous travaillez, ont cet ADN. Comment fait-on pour justement avoir un centre-ville dynamique ?
Alors, il y a beaucoup de villes en deuxième couronne qui sont déjà le fruit d'un véritable étalement entre une somme de parcs d'activités qui se sont implantés, de la logistique et puis du logement pavillonnaire datant souvent du début du XXe siècle, mais qui a continué à se répandre sous forme parfois de lotissement. Cette problématique de ce territoire et des centres-bourgs un peu plus éloignés, qui sont quasiment en troisième couronne, voire en dehors de la région Île-de-France, nécessite des approches qui sont différentes. Je pense que des centres-bourgs qui sont en troisième couronne doivent offrir cette qualité de vie que l'on retrouve en première couronne ou à Paris. Je pense réellement qu'il y a une qualité...
C'est très ambitieux.
C'est pas très ambitieux, je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour ne pas déclasser. Parce que souvent,
quelle est la recette, hein?
La recette, c'est un travail de long terme. C'est de la sédimentation sur chacun de ces territoires. C'est offrir cette qualité de vie. C'est des choses toutes simples, matérielles, comme des espaces publics. Ce sont du commerce à réinvestir. C'est des activités culturelles, des activités sociales, des activités sportives. Tout ce qui fait que la ville et la densité qu'offre la ville a des vertus.
Oui, mais c'est vrai que ces villes moyennes n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un cinéma, une médiathèque. Et on sait que la culture permet justement de s'intégrer un peu mieux dans un territoire et d'y rester, puisque le week-end, du coup, outre le fait qu'on est très près de la nature, on a besoin aussi d'aller au cinéma ou envie d'aller au cinéma, au théâtre, et éviter de prendre sa voiture pour y aller. C'est un atout extraordinaire. Comment fait-on justement pour garder
au même titre que l'aménageur doit se renouveler, réinventer son métier en permanence, les autres activités doivent faire de même. Le cinéma doit également se réinventer.
Est itinérant.
Pourquoi pas. Ils peuvent également être complémentaires.
Cinéma Paradiso.
Par exemple, je prends l'exemple tout simplement d'Arpajon, qui est une petite commune de la troisième couronne, qui voulait à tout prix conserver un cinéma. Ce cinéma est aujourd'hui conservé, va faire l'objet effectivement d'une intervention physique, de manière à requalifier également le cinéma. Mais ça a été un travail combinatoire entre la ville et un exploitant.
Est-ce à dire que ça permet, par exemple, dans la journée, de faire des conférences? Est-ce à dire que le cinéma peut être vivant le soir et très opérationnel dans la journée avec des lieux de conférences et d'apprentissage?
Ce qui est certain, c'est que le métier d'aménageur aujourd'hui n'est plus un métier de contenant, mais un métier de contenu. Et on se doit aussi de se poser la question des choses qui
de la vertu.
Oui, de la vertu, mais de l'aval et de la gestion. On ne peut plus créer des coques sans se poser la question de ce qu'on va mettre dedans et comment on va pérenniser ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas une recette particulière pour avoir un cinéma à Arpajon une ville X ou Y. Ce sont à chaque fois des cas particuliers. Des cas particuliers qui doivent faire l'objet, non pas d'une sorte d'oukase en disant ça doit fonctionner comme ça. On se doit d'aller chercher des forces vives qu'à la base on...
Mais qui existent, mais qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble.
Elles n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Elles nécessitent aussi d'aller les chercher. Elles sont souvent en sommeil. Cette société civile, il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses et qui ne savent pas comment les faire. Et notre rôle, c'est essayer de trouver avec eux la manière de le faire, de trouver les moyens de financement, que ce soit des subventions, que ce soit un sujet d'équilibre financier pour amortir un investissement. Notre rôle est d'accompagner l'ensemble de ces opérateurs à concrétiser leurs projets, des projets qui vont bénéficier à tout un territoire, toute une société civile, à des habitants.
Alors, on a écumé pas mal de sujets. J'ai le sentiment quand même que sur Ville-Génie, votre opération phare, on n'a pas dit la totalité de tout ce qu'il fallait dire. Peut-être une autre interview nous permettra de donner un accent un petit peu plus particulier à ce hors-site construction et modularité. Je pense que c'est un sujet qui intéressera beaucoup nos auditeurs. Au revoir, chers amis, et à bientôt sur Radio Immo.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.